VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 13h, temps universel. Les belligérants de la guerre civile au Soudan du Sud se sont rendus coupables d'actes d'extrême cruauté contre les populations civiles et devront donc rendre des comptes devant une cour de justice indépendante africaine. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'Union africaine. Une commission d'enquête de l'UA, conduite en 2014 par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, a documenté dans un rapport de nombreuses exactions de combattants allant jusqu'à forcer les membres d'une communauté à boire le sang et à manger de la chair humaine brûlée des victimes de leur ethnie qui venaient d'être tuées. Sur la base de ce rapport, l'Union africaine doit mettre sur pied une cour de justice indépendante, la cour hybride du Soudan du Sud, chargée d'enquêter et de juger les responsables des exactions depuis le début de la guerre civile en décembre 2013. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a limogé son frère cadet, Saleh Déby, de la Direction générale des douanes le week-end dernier, une mesure qui vise à assainir les finances publiques. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajinga.
Tout est parti de l'application de la feuille de route issue du séminaire gouvernemental tenu du 6 au 7 octobre dernier à N'Djamena sur la stratégie de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses publiques selon les informations proches de l'enquête. Le gouvernement aurait demandé à l'ex-directeur général des douanes Saleh Déby de verser les recettes douanières au trésor public, mais ce dernier a opposé une fin de non-recevoir. Très en colère, le gouvernement, à travers son secrétariat général, a déposé une plainte contre lui au parquet de première instance de N'Djamena le vendredi 23 octobre pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Par un décret présidentiel signé le même jour, l'ex-tout-puissant directeur général des douanes, frère cadet du président Idriss Déby Itno, est limogé et aussitôt mis aux arrêts par les éléments de la DGCIO, Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, et placé à garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Non seulement le gouvernement lui demande de justifier sa fortune estimée à 15 milliards de francs CFA et les recettes douanières qu'il aurait logées dans un compte privé, mais de réparer les produits subi par l'État. Réaction de quelques citoyens au sujet de ce limogeage.
Un simple douanier, on l'escorte pour aller au bureau, c'est mon faute de voir. Le ministre des douanes ne va escorter pour un douanier. C'est lui qui a ramassé beaucoup d'argent, il faut qu'on le mette en public, tout le monde le voit. Que de le cacher et faire un jugement sous coulisses, nous on ne veut pas.
Même si c'est une récupération politique, mais quand même, nous, surtout les citoyens lambda, on a vraiment apprécié cela. Donc, Déby doit faire tout pour laisser la justice librement faire son travail.
Les recettes douanières sont les premières recettes qui contribuent au budget national. Mais depuis que ces régies sont à la main de certaines personnes, le Tchad est asphyxié. Donc son limogeage est un ouf pour le trésor tchadien.
Pour le ministre des Finances et du Budget, Garlena Dokdjengar, une page de l'histoire est tournée.
Il faudrait que la douane soit une administration au service de l'État et non une administration au service de quelques agents. Qu'on puisse jeter les nouvelles bases d'une administration douanière qui, compare le passé, est une des premières administrations financières du pays.
Si les faits reprochés à l'ancien directeur général des douanes sont avérés, il encourt un emprisonnement ferme de 1 à 10 ans avec une amende de 100 000 à 10 000 de francs CFA conformément à la loi en vigueur. Pourquoi ce sont les éléments de la DGCIE qui l'ont arrêté alors que la plainte déposée contre lui au parquet est orientée à la police judiciaire? Personne ne répond à cette question. André Kodmajingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Congo-Brazzaville, d'après les résultats officiels du référendum constitutionnel de dimanche, le oui l'a emporté à 92,96% avec un taux de participation de 72,4%, des chiffres jetés par l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Idriss Fall a joint Trésor Chardon Zila Kende, le directeur de cet observatoire à Brazzaville. Voilà, quelques difficultés avec notre magnéto. On continue donc ce journal. Au Rwanda, les députés débattent au Parlement d'un projet de réforme constitutionnelle éliminant la limitation des mandats présidentiels et permettant au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Un vote est attendu sur ce plan de réforme. Je le disais tantôt, Congo-Brazzaville, d'après les résultats officiels du référendum constitutionnel de dimanche, le oui l'a emporté à 92,96% avec un taux de participation de 72,44%, des chiffres jetés par l'Observatoire congolais des droits de l'homme. On écoute Trésor Chardon Nzila Kende, le directeur de cet observatoire à Brazzaville.
Ces résultats sont tronqués, ils ne reflètent pas la réalité. Les Congolais, en grande majorité, ont boudé les urnes. Il y a eu très peu de mobilisation, que ce soit dans les grandes agglomérations, Brazzaville, le Pointe-Noire, Béliveau, et même à l'intérieur du pays.
Quelles sont les preuves que vous avez? Est-ce que vous aviez des observateurs dans tous les bureaux de vote et dans toutes les villes?
Il n'est pas évident de dire que nous avons des observateurs dans tous les bureaux de vote. C'est exagéré, mais nous avons des informations venues de partout qui nous permettent de dresser une tendance générale sur le déroulement du scrutin.
Maintenant, quelle sera la suite si la nouvelle constitution est adoptée?
Si la nouvelle constitution est adoptée, c'est ce qui est fort regrettable. La constitution va passer, mais ce qui reste à faire, c'est la bataille de la gouvernance électorale. Il faut qu'on ait un fichier électoral fiable, une commission électorale véritablement indépendante pour garantir la sécurité du scrutin de 2016.
Qu'en est-il des militants de l'opposition qui étaient assignés à résidence?
Actuellement, ils sont toujours assignés à résidence. Les droits et libertés politiques sont bafoués. C'est tout à fait inadmissible de voir que les opposants soient assignés à résidence. Que le procureur de la République est censé garantir les droits et libertés des citoyens. C'est une insulte.
Trésor Chardon Zila Kende, le directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme à Brazzaville, joint par Idriss Fall. L'organisation américaine Human Rights Watch a appelé aujourd'hui la République démocratique du Congo à accroître la protection des écoles contre les groupes armés dans les régions de l'est du pays déchirées par les conflits armés. L'organisation des droits humains dénonce dans un rapport l'utilisation des écoles comme lieu de recrutement et à des fins militaires. L'ONG reproche également aux différents groupes rebelles qui continuent d'agir dans les provinces du Nord et du Sud Kivu d'avoir pris le contrôle des écoles à des fins donc militaires pour en faire des casernes, des terrains d'entraînement ou encore des dépôts d'armes et de munitions.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Plus de 300 femmes et enfants retenus en captivité par le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont été délivrés, a annoncé l'armée nigériane ce mercredi dans un communiqué. Ces opérations visaient des camps présumés des terroristes de Boko Haram dans les villages de Boulayine et de Monawashe, dans la région de la forêt de Sambisa, un fief des rebelles islamistes. L'armée a également revendiqué avoir tué 30 membres présumés de Boko Haram et récupéré des armes et des munitions. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, réélu pour 5 ans dès le premier tour, c'est ce qu'annonce la CEI, la Commission électorale indépendante. Notre envoyé spécial Tatiana Mosso est à Abidjan, témoignage.
C'est une victoire sans surprise pour le candidat du RHDP Alassane Ouattara, avec 83,72% des suffrages. Le président sortant obtient donc son deuxième mandat, très loin devant ses adversaires. Derrière lui, pas un seul des autres candidats ne dépasse les 10%. Le résultat de ce scrutin semble laisser penser qu'Ado était seul dans la course. Arrivé en deuxième position avec 9,25% des voix, Pascal Affine-Guessant du FPI, le Front populaire de l'ancien président Laurent Gbagbo. En troisième, Kwadjo Konan-Bertin avec un minimum de 3,84%. Souvenez-vous, dès lundi soir, c'est ce dernier qui avait déjà félicité Alassane Ouattara pour sa victoire. Il s'en était suivi 2 autres candidats dans la journée de mardi, reconnaissant ainsi leur défaite avant même la proclamation partielle des résultats. Quant à la polémique sur le taux de participation, la CEI a finalement revu à la baisse les 60% annoncés lundi, soit 54,63% du taux de participation. C'est ce qui était proche du chiffre annoncé par la société civile. Jusqu'à présent, cette élection s'est déroulée sans incident particulier. Reste à savoir si elle permettra aux Ivoiriens de tourner définitivement la page de la crise de 2010 et d'amorcer une réelle réconciliation nationale. Tatiana Mosso à Abidjan pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le calme est de retour dans les universités après la promesse faite vendredi par le président Jacob Zuma qu'il n'y aura pas d'augmentation de frais d'études. En 2016, beaucoup d'étudiants se félicitent de cette concession présidentielle, mais les plus radicaux continuent d'exiger la gratuité des études universitaires. Les élections présidentielles, législatives et locales sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar en Tanzanie ont été annulées en raison de fraude et un nouveau scrutin devra avoir lieu, a annoncé aujourd'hui le président de la commission électorale, la ZEC. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain rendez-vous dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.